Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Orales, le podcast qui s'intéresse aux secrets d'éloquence de professionnels à Bordeaux et parfois au-delà. Chaque mois, je pars à la rencontre d'orateurs et oratrices du quotidien en quête d'anecdotes insolites, d'outils pratiques et d'une bonne dose d'inspiration pour vous faire aimer prendre la parole en public. Comment envisager l'expression que l'on soit à la barre d'un tribunal, face à ses équipes ou devant un parterre d'inconnus ? Je suis David Jadar, formateur en prise de parole et entrepreneur. J'aide chaque année plusieurs centaines de professionnels à gérer leur trac et à s'exprimer de façon percutante en présentation. Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil et bonne écoute.
Bonjour, eh bien, je m'appelle Baptiste Lafont, je suis cofondateur d'un organisme de formation qui s'appelle Décalé, D-E-C-A-L-E-Z, point d'exclamation, voilà, l'impératif, il faut se décaler. Et je suis également comédien, improvisateur, formateur et donc un peu gestion d'entreprise aussi.
D'accord, et à quel moment vous avez fondé Décalé, en quelle année ?
On a fondé Décalé en 2015. Il y a 8 ans, on a fêté ça au mois de mai dernier. On l'a fondé parce que j'étais salarié à l'époque d'un organisme qui s'appelle Aquitaine Cap Métier, que peut-être des gens connaissent ou utilisent, qui fait de la formation et de l'information, justement dans la formation professionnelle. Et je faisais partie d'un observatoire régional emploi-formation. Et je m'occupais de l'apprentissage et des contrats pro. Donc en gros, j'avais une base de données et puis je faisais des requêtes pour faire des tableaux de bord, etc., etc. Et je croisais beaucoup de, au moment des comités de pilotage, je croisais beaucoup de syndicats de patrons et de syndicats de salariés. Et ils s'entendaient tous sur un point, les compétences de savoir-être sont les compétences de demain. Et donc comme en parallèle, je faisais de l'improvisation théâtrale, m'est venu cet instinct qui est de dire mais en fait l'improvisation théâtrale ça m'a quand même beaucoup aidé dans mon métier à intéresser des gens sur des chiffres statistiques à 17h alors que tout le monde a envie de débaucher. Eh bien ces outils m'ont aidé en fait à capter le public et à les intéresser, et si je mettais ça au service des gens et au service de la formation professionnelle.
Et je crois en plus que vous êtes pas loin d'être les premiers à Bordeaux à avoir lancé cette idée de formation autour de l'improvisation théâtrale, notamment en entreprise, auprès d'institutions publiques. Je crois que vous travaillez pour la région.
Les premiers, ben, je pense oui que je confirme. En fait, on a assumé effectivement être un organisme de formation qui utilise l'improvisation. Alors, il faut savoir déjà que monter un organisme de formation en 2015, on nous a dit mais c'est hyper concurrentiel. Et ensuite, on y a ajouté le mot improvisation et là, on nous a dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, pour être poli. Voilà, donc c'était pas fait, mais effectivement, on était les premiers à assumer improvisation et formation dans une même proposition.
Avec ce ton décalé, et puis il y a quelques années, on vous a même ajouté aussi Calliope, comme bon nombre d'organismes de formation, toutes ces contraintes aussi administratives qui sont pas évidentes pour un certain nombre de formateurs aujourd'hui. Très bien, donc pour que ce soit clair pour nos auditeurs et auditrices, décalé, vous faites donc de l'accompagnement sur les savoir-être pour des particuliers comme lors d'ateliers collectifs. C'est ça, pour travailler notamment sur la spontanéité, le lâcher-prise, la créativité de groupe ?
C'est tout à fait ça, voilà. On utilise l'improvisation appliquée, on a une offre de formation entre guillemets classique sur l'agilité relationnelle qu'on découpe en gros en trois grandes thématiques, communication, coopération et créativité. On a une partie accompagnement de collectif dans la facilitation pour justement comment être performant collectivement et pas individuellement. Et une dernière offre, entre guillemets, un petit peu plus classique qu'on appelle la restitution improvisée ou l'animation événementielle pour éviter que les événements soient longs et ennuyeux et qu'on utilise son téléphone au lieu d'écouter la proposition de l'événement. Voilà, en gros.
Et quels sont les types de clients avec lesquels vous travaillez? Je pense à la fois aux particuliers, peut-être dans un premier temps, nous dire un petit peu qui vient toquer à votre porte. Et puis après, en termes d'entreprise, de collectivité, avec qui vous travaillez actuellement, par exemple?
Alors, c'est varié et on est content que ce soit varié. Au départ, on n'avait pas une culture, effectivement, un petit peu entrepreneuriale. J'avoue, on est parti en se disant, on ne va pas cibler. Maintenant, j'ai ce mot en tête, hein, il faut cibler. Donc, on est parti et on est parti un peu partout. Et en fait, ça nous a permis de faire un petit 360. Alors, tu disais tout à l'heure Calliope, effectivement. Avant Calliope, pour ceux qui ont connu, il y avait Datadoc. Et nous, on s'est dit, c'était important pour nous de mettre des ronds dans des carrés pour que les gens pensent quand même que l'improvisation, c'est sérieux. Donc, on a fait Datadoc, on a fait Calliope, on a fait France Compétences et on a une formation qui est éligible au CPF. Donc, les particuliers peuvent venir nous voir en fait en mobilisant leur CPF. C'est pas notre principal canal en ce moment, mais ça se développe. Et puis ensuite, on va avoir voilà, des organisations de l'entreprise, effectivement. On a également des associations, des incubateurs. On travaille beaucoup avec l'incubateur Atis sur toute la région, sur la partie collectif, intelligence collective, et puis le pitch entrepreneurial aussi qu'on fait beaucoup. Et effectivement, avec les collectivités territoriales. Et ce qui marche beaucoup, c'est la cooptation, le bouche à oreille. On essaye de produire des choses pour pas être uniquement dans de la cooptation et du bouche à oreille, mais c'est le plus efficace, et notamment dans les collectivités. Voilà, la Gironde, Bordeaux Métropole, la région, les mairies, on les salue d'ailleurs. Voilà, la Gironde est un partenaire qui a cru en nous dès le début.
Aujourd'hui, tu cumules plusieurs casquettes. T'es gestionnaire, t'es comédien, t'es formateur. Qu'est-ce que tu préfères, quant à la casquette de formateur, qu'est-ce que tu préfères tout particulièrement ?
Ce que je préfère, c'est être sur le terrain et voir une montée en compétences, comme on dirait à Calliope. En gros, sur le terrain, quand même, une transformation. J'aime bien voir les gens se transformer, j'aime bien voir les gens intégrer une technique et sortir content, sortir heureux d'avoir appris quelque chose. Voilà, hier encore, j'étais sur une formation d'insertion professionnelle avec des demandeurs d'emploi, et les retours m'ont marqué, ils étaient assez touchants. Il y en avait un qui était « Ah, merci de vous être mis à niveau ». Alors, ça m'a marqué d'entendre « de vous être mis à niveau », parce que moi, quand je vais en formation, je ne me mets pas à niveau, en fait, je viens transmettre quelque chose. Mais je trouvais ça assez, voilà, assez touchant, je trouve ça touchant, des fois, des retours comme ça, et c'est ça que je préfère. C'est pour ça que j'ai gardé le lien de formateur, et que je ne suis pas uniquement dans de la gestion d'entreprise, comme on peut vite l'être dans un organisme de formation, où on peut très rapidement tomber sur de la coordination, de la logistique pour être plus rentable.
En prise de parole, il y a plusieurs chapelles. J'entends par là qu'on peut travailler aussi bien sur le fond que sur la forme. Je pense notamment d'un côté aux techniques de l'art oratoire, de l'autre côté aux techniques rhétoriques. Là, on parle d'improvisation théâtrale. Personnellement, j'en ai l'image de décaler un travail beaucoup sur lâcher prise, la spontanéité. À ce titre, est-ce que tu as un souvenir marquant sur une fierté, un souvenir marquant concernant un ancien client ou une ancienne cliente sur le lâcher prise ?
Oui, j'en ai plusieurs. En fait, j'étais en train de réfléchir en me disant que je ne peux pas dire ça comme ça publiquement, je ne peux pas donner des noms de personnes. Il y a une personne élue auquel je pense, et il y a une autre personne aussi qui est encore en poste, qui a un poste à responsabilité, et de voir ce processus de lâcher prise, de transformation, parce que quand on utilise l'improvisation appliquée, il y a de la déconstruction. Et dans les phases de déconstruction, effectivement, on peut voir des choses qui sont vulnérabilisantes, pas fragilisantes. Hein. Nous, on accompagne toujours en confiance, mais tu peux avoir un moment sur une formation de 2 jours, le soir du premier jour, où il y a une vraie vulnérabilité, une vraie interrogation. Donc, spontanément, j'ai pensé à 2 personnes, mais c'est bête, je peux pas trop en parler. Ensuite, bah, y a des gens qui aujourd'hui continuent leur activité professionnelle. Je les vois dans leur pitch. Je pense peut-être à Circouleur, qui aujourd'hui est une marque de la région qui utilise des peintures recyclées, tout ça. Voilà, je les ai accompagnés. Je suis plutôt fier de les voir. C'est vrai que j'en ai pas mal de fierté, en tout cas.
On me demande souvent comment travailler sa répartie. Je peux avoir cette question-là aussi bien dans les écoles post-bac dans lesquelles j'interviens ou auprès de clients divers et variés. Comment vous travaillez ça chez Décalé, la spontanéité, la répartie ?
On la travaille en recréant des situations qu'on ne peut pas anticiper. Et en fait, c'est ça l'improvisation, c'est ça le plus dur, c'est d'arriver à trouver des exercices où on ne peut pas anticiper. Et il y a plein d'exercices d'improvisation que tu connais aussi, où en fait, l'anticipation va nous mener à l'erreur. C'est-à-dire que la réflexion va nous mener à l'erreur. Souvent, les gens confondent répartie, punchline, hein, parce qu'il y a aussi cette notion de la bonne phrase. Hein, la répartie, c'est la bonne phrase sortie au bon moment. Alors c'était très 20e siècle de préparer sa phrase et de la sortir et les gens font ha ha ha. Aujourd'hui ça marche plus du tout, hein. C'est la phrase préparée, ça se voit. Et en fait il faut s'entraîner à réagir dans un moment d'imprévu. Donc il y a beaucoup effectivement de notions de lâcher prise et il y a une notion d'entraînement, mais d'entraînement de situation, pas d'entraînement de formulation forcément de phrases qui captent. Et pour moi, c'est aussi beaucoup lié à l'authenticité. Donc tout à l'heure, tu parlais des chapelles. Moi, je suis chapelle, le fond répond à la forme et la forme répond au fond, en fait. Et c'est là-dessus, en fait. Si on sait très bien ce qu'on veut dire et ce qu'on a envie de dire, on a envie de partager, ben, on fera preuve de répartie. Et je le dis souvent à mes stagiaires, hein, l'improvisation, c'est aussi l'antidote pour rentrer chez soi et ne pas dire « Ah, j'aurais dû dire ça ». Parce que quand on dit « j'aurais dû dire ça », c'est qu'on a réfléchi à la situation.
Je crois que c'est le général de Gaulle. Le fond, la forme, pardon, c'est le fond qui remonte à la surface. J'aime beaucoup cette phrase-là. Il n'y a rien d'anodin dans la forme d'un orateur ou d'une oratrice. Il y a aussi du travail. Et donc, on entend bien que chez Décalé, vous faites ce travail de préparatoire au lâcher-prise, à la créativité dans l'instant, en surprenant donc les participants. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde, Baptiste, si tu le veux bien, ton rapport à l'oralité plus jeune, parce que je sais, en tout cas moi ça a été mon cas, j'ai pu jusqu'à mes 23-25 ans éprouver certaines difficultés à m'exprimer devant le grand public, j'en ai bientôt aujourd'hui 35, quel a été ton rapport à la prise de parole ?
Alors moi je suis tombé dans le théâtre quand j'étais tout petit. Donc,
la chance.
Ouais, j'avoue que je suis chanceux et c'est d'ailleurs pour ça que je défends souvent le fait que, à mon avis, dans notre parcours scolaire, on devrait être obligé de faire une activité culturelle, que ce soit musique, une activité d'expression culturelle. En fait, ça, c'est tellement aidant. Et je le vois en comparaison, peut-être au niveau du fait d'être à l'aise avec mes frères et sœurs, que je salue, hein, s'ils m'écoutent. Je peux faire cette comparaison. Donc, je suis tombé tout jeune dans le théâtre. Après, un rapport de stress. Hein. Je veux dire, j'ai eu effectivement des bons résultats à l'oral pendant mes études. Mais j'ai toujours été stressé. C'est-à-dire que, bah voilà, même avant un spectacle ou avant un oral, je trouvais difficilement le sommeil, je dormais très peu. Voilà, donc j'ai dû beaucoup travailler la préparation du stress, comment je dompte le stress. J'ai des souvenirs là qui me remontent à la surface. Quand j'ai passé le conservatoire, ça allait très bien avec mon rôle, mais je tremblais littéralement sur scène, je tremblais quoi. Mais ça passait, ça a été dans le rôle. Du coup, ils ont pensé que c'était une belle interprétation. Bon, c'était le stress.
Je me souviens de mes premières improvisations, j'avais l'impression d'avoir le cœur tapis dans la gorge. De jouer ces personnages avec des trémolos dans la voix. Et effectivement, c'est pas évident. Et la confiance, souvent, on me pose la question, mais comment on peut avoir plus confiance en soi ? Et je dis, c'est rarement un interrupteur hein, sur lequel on va appuyer. Tout d'un coup, tiens, j'allume la lumière et j'ai confiance en moi. Mais c'est comme la somme de compétences assimilées. Hein, et en théâtre, ben, on apprend, en théâtre d'improvisation, on apprend une série de techniques. Et la capacité de pouvoir improviser à l'oral, d'ailleurs, je dis souvent que c'est une somme de techniques assimilées. Et l'intuition, dans le moment, nous aide à rassembler l'ensemble de ces techniques-là et donc à produire un discours plus ou moins efficient. Mais le but, c'est qu'il le soit.
Confiance et estime de soi. Donc, parfois, on peut avoir très peu d'estime à un moment où on doit prendre la parole. C'est aussi ça que je travaille avec mes stagiaires. C'est qu'à un moment bah, vous êtes aussi légitime, il faut s'accorder la légitimité de pouvoir prendre la parole. Et parfois, c'est la technicité qui apporte la légitimité. C'est pas forcément la technique de prise de parole. Et on va souvent confondre. Donc des fois, bah, en fait, je sais pas, hein, je donne un exemple, mais si je suis spécialiste d'une base de données et que je dois parler à mes autres collaborateurs, la légitimité vient de ma technicité. Et je suis pas obligé de partir sur quelque chose de très éloquent. Je peux juste essayer d'avoir quelque chose qui me va bien pour pouvoir m'exprimer.
Tu soulignes, c'est important, il y a ce premier pas aussi nécessaire de se lancer. J'ai récemment Rosa Palomino, formatrice à l'école de l'art oratoire, qui nous expliquait qu'un bon orateur ou une oratrice, c'était déjà une audace d'oser se lancer, aussi bien en repas de famille, avec ses amis, c'est autant de prétextes pour préparer le terrain de prise de parole, peut-être parfois un peu plus sérieuse par moment. Et donc c'est déjà une condition sine qua non. Et puis après, ben, la technique s'apprend effectivement. Est-ce qu'il y a maintenant une ressource, un livre qui t'a marqué en matière de prise de parole, documentaire, livre comme tu veux?
Oui, dernièrement, c'est Mathilde Elie avec qui je travaille à Popin Cube qui m'avait fourni cette référence. C'est Thierry Tournebise, l'art d'être communicant. Et en fait, ça fait partie de ses livres. Quand on rencontre un livre, on dit, mais en fait, c'est quelqu'un qui dit exactement ce que je pense. Voilà. Et c'est très bien pensé. Pour moi, ça résume beaucoup ce qu'est la communication. Et souvent, on peut me faire le retour, parce que la science de la communication, c'est une science américaine. On peut faire le retour que culturellement, les Français peuvent être très, très objecteurs sur la culture américaine. Là, en tout cas, bah, c'est français. Donc, il y a une culture française. Et ça, moi, je le trouve très puissant comme livre. Je ne sais pas si tu connais, mais je...
Pas du tout, et je te remercie pour cette référence. Donc, l'art d'être communicant, et tu m'as dit Thierry Tournebise.
Thierry Tournebise,
j'ai tout bon. Bon, ça va. Eh ben, merci beaucoup pour cette référence, Baptiste. T'as complètement raison. Je vais dans ton sens aussi sur ce côté objecteur par rapport à... Il y a une méfiance culturelle vis-à-vis de la technique de la prise de parole en public, qui est pour tout un tas de raisons. Mais je rappelle souvent qu'au Moyen-Âge, par exemple, les comédiens étaient très très mal vus parce qu'ils venaient un petit peu défier la parole de l'Église. Et donc, il y a cette tradition, il y a un petit peu cet inconscient collectif en Europe occidentale de la technique à l'oral et des gens qui se produisent sur scène comme quelque chose d'un petit peu fallacieux, trompeur, et dont il faudrait peut-être parfois un petit peu se méfier. Et il y a pas que ça, hein. Il y a récemment, j'ouvrais également un petit livre, tu sais, la collection Que sais-je, sur l'art oratoire. Et il y avait quantité de témoignages, même d'avocats à l'époque, donc c'est un livre qui date des années 60. Et il y avait quantité de témoignages qui disaient, en fait, il y a les orateurs nés, il y a les autres. On a longtemps cru à cette pensée. On est orateur. Et on peut pas le devenir, quoi. Ça s'apprend pas, ça doit venir du ventre, quoi. Et en fait, on a quantité, je crois que t'en as tout comme moi, quantité d'exemples de gens qui étaient pas forcément très doués à l'oral au départ, ce qui était mon cas, par exemple, et des gens plus célèbres et encore plus, évidemment, beaucoup plus visibles que moi, qui n'étaient pas non plus. Je pense à Michelle Obama, par exemple, et qui se sont formés sur le tas. Donc, on peut l'apprendre.
C'est évident que ça s'apprend. C'est évident que ça s'apprend. Et souvent, c'est l'héritage de notre formation initiale. J'aime beaucoup l'école. Attention, je le précise avant. La formation initiale, on a tous eu un peu la même. Hein, si on est à l'école française, on n'a peut-être pas été excellemment formé sur cette prise de parole en public. Et notre première prise de parole publique, elle arrive trop tard. Elle arrive à un moment où on nous dit d'apprendre quelque chose par cœur, un poème de Jacques Prévert, je ne sais pas. Et puis ensuite, on nous dit d'aller au tableau, de parler fort. Donc il y a un effort de mémorisation, il faut réciter. Et donc c'est un rapport de stress. Alors c'est super pour moi et pour décaler, puisque en formation professionnelle pour adultes, on travaille ça. Hein, on travaille ce manque dans la formation initiale. Si on l'abordait plutôt plus jeune, ce que font les Américains, les Québécois aussi, hein, de manière complètement classique, de « je raconte des vacances », etc., on serait beaucoup plus à l'aise avec l'exercice. Mais on a souvent été assis à devoir se taire et à écouter. Et donc, ça, on sait faire.
Ouais, tout à fait. Et les anglo-saxons, paraît-il, ils ont un petit exercice, c'est-à-dire que les jeunes élèves, dès l'âge de 3-4 ans, montent sur l'estrade le lundi matin et doivent raconter leur week-end devant leurs camarades, donc de manière totalement improvisée. Donc, il y a ce rapport à la parole, déjà, qui est moins conditionné à un exercice de méfiance, une méfiance vis-à-vis du public. Il y a quelque chose d'un petit peu plus spontané dès le départ. Et ça me rappelle aussi ce que tu évoques, une coupure qu'il y a, et je suis d'accord avec toi, l'école française, il y a un certain nombre de très bonnes choses, mais il y a aussi cette coupure entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'on a oublié de nous dire qu'une hygiène corporelle, c'était aussi une hygiène mentale. Et tu dois le voir également, en formation, parfois on peut constater des jambes qui se torsadent, des mains qui se nouent, et on a souvent peu conscience de ce qu'on projette. Et il y a une femme américaine, justement, je crois qu'elle s'appelle Amy Cuddy, qui a donné un TEDx, je crois que c'est le TEDx le plus regardé de l'histoire de tous les TEDx, c'est visible sur YouTube, et elle a interrogé ce rapport entre notre posture et nos émotions. Et c'est assez fascinant. Et c'est pour ça, notamment, qu'en art oratoire, et certainement aussi parmi vos outils chez Décalé, on va parler de l'importance du dos, de l'ancrage de la verticalité du dos. Je dis souvent en formation, dos actif, cerveau alerte. C'est-à-dire que si je lâche mon dos en entretien, je vais avoir tendance à lâcher aussi un petit peu mon esprit pour des raisons un petit peu mystérieuses, hein, quand on les aborde comme ça spontanément. Maintenant, s'il y avait une personnalité publique du monde des affaires, politique, du one-man show, comme tu veux, que tu pouvais accompagner à la prise de parole, tu choisirais qui, toi ?
Je pense, je pense que je choisirais, c'est vrai que j'irais dans la politique, je prendrais un technicien qui travaille hyper bien, mais un peu du type Lionel Jospin. Alors c'est vieux, hein, je n'ai pas formé Lionel Jospin, mais je vois un peu ces techniciens qui quand même étaient des bêtes de travail, mais finalement qui du coup sur la partie communication... C'était pas l'extase complètement. Alors je prendrais pas Lionel Jospin, c'est quand même un peu has-been, et puis là le jeune public sait pas qui c'est.
J'ai un deuxième nom has-been, Laurent Fabius. Je pense à Laurent Fabius qui plusieurs fois s'était fait dégommer à la fois par Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy en débat. Évidemment, on parle pas d'idées politiques dans ce podcast, mais on parle que de technique. Mais ça, il avait passé des sales quarts d'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui ?
Mais en parlant de technique, je pense que Valérie Pécresse avait appris beaucoup de techniques, mais elle avait du mal à les incarner. Elle s'est fait beaucoup bâcher. Hein. Moi, je pense qu'elle s'est fait plus bâcher que la moyenne des autres se sont fait bâcher. Alors après, là, on parle politique. C'est vrai que si on parle de politicien, et en dehors de la politique, moi, ce que je dis dans les formations, si on prend tous ceux qui sont dans l'élection présidentielle la dernière, ils sont tous de très bons communicants quand même. Enfin, ils adorent ça, quoi. En plus, il y a une dimension foule dans les meetings, il y a une dimension emmener la foule, etc. C'est des gens qui adorent être en prise de parole en public, ça c'est clair. Après, ils le font effectivement plus ou moins bien, et puis derrière, il y a le fond. Qui sait que j'aimerais bien accompagner ? Moi, j'aimerais bien accompagner certains sportifs. Voilà, en me disant que des fois ça manque d'authenticité et ça pourrait être parfois un peu mieux.
On a marqué les 3 points, on a joué en 4-4-2.
Tout à fait. Après, alors,
le groupe vit bien.
Ouais, le groupe vit bien. Alors, décharge, je pense qu'il y a très peu de gens dans leur métier, ils sont à fond, ils sont fatigués, et tout de suite, on leur tend un micro pour dire « Eh, au fait, comment ça va ?» Donc, je pense qu'il y a une grosse technique de média training, je pense, à avoir, mais c'est vrai que ça doit être dur. Moi, je ne m'imagine pas courir 90 minutes et faire ce podcast, par exemple. Tu vois, ça, mais,
moi non plus. Et effectivement, ça doit être assez difficile. Il y a quelques sportifs ou anciens sportifs qui me bluffent. Pas plus tard que ce matin, je me suis abonné au compte d'Abi Bey. Tu dois, ouais, ça doit te parler, ancien international sénégalais, il a joué à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, il est entraîneur d'une équipe de football de 3e division, je crois, le Red Star. Et il est consultant à Canal+. Et je le trouve, à mon avis, il a dû se faire entraîner un peu, parce que je le trouve très, très, plutôt assez technique et plutôt assez, assez éloquent en plateau. Donc toi, tu choisirais plutôt des sportifs, bah, c'est hyper intéressant. Maintenant, si tu pouvais être un orateur ou une oratrice célèbre, en qui tu te réincarnerais ?
Alors, je ne sais pas si je me réincarnerai pour la manière de parler ou par la vie qui mène, mais c'est une sacrée question. C'est vrai que je... Alors, moi, je suis plutôt inspiré. J'aime beaucoup les chanteurs. Alors, tu me diras, en prise de parole publique, parfois, ils sont vraiment pas bons, mais hop, ils peuvent ensuite switcher. J'aimerais bien être un chanteur. J'aime bien. Et j'aime bien les chanteurs qui sont dans une interaction entre les morceaux. J'aime pas trop les concerts complètement préparés. Allez, j'aime bien en ce moment, je dirais Gaël Faye, tiens. J'aime beaucoup ce chanteur. J'aime bien cet orateur. Je trouve qu'en plus, il est très poétique. Il a une superbe écriture à l'oral comme à l'écrit. Allez, j'irai Gaël Faye.
Ouais, et puis il est éclectique. Je crois qu'il a été récompensé par plusieurs prix littéraires pour... Petit pays, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, son premier roman, ouais.
D'accord. Et d'accord, donc Gaël Faye, ben, là aussi, merci, merci Baptiste. Et est-ce que tu as des inspirations, des mentors dans le métier ? Moi, j'aime bien des gens. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé au départ, il y a plus de 10 ans, c'est Le secret des orateurs de Stéphane André, que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait un petit peu rencontrer l'école de l'art oratoire, par exemple. Quelles sont tes inspirations, tes mentors au départ ?
Tu m'as juste listé rapidement les questions avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, donc c'est de l'improvisation. Donc j'ai réfléchi spontanément, mais est venu quelqu'un qui n'est pas connu, mais que j'ai croisé dans ma carrière pro, qui s'appelle Gérard Prieur, qui est à la retraite aujourd'hui, et qui était mon collègue de bureau, et qui a Jeunesse et Sport à La Rochelle, et qui m'a beaucoup inspiré dans sa façon d'être et sa façon de faire. C'est un des pionniers, des formateurs de la communication non violente. Et je crois que j'ai appris 10 fois plus en sa présence, lui pratiquant la communication non violente hein, tous les jours, que parfois lorsqu'on allait sur site et qu'on faisait des formations en bonne et due forme. À ses dépens aussi, à cette époque, j'ai appris du directeur de Jeunesse et Sport. C'était un moment critique socialement, puisqu'il y avait des tensions sociales. Alors moi, j'étais en CDD, hein, mais il y avait des gens qui devaient bouger, etc. Et discours du directeur, et j'avoue que je me suis fait happer. Donc lui avait appris les techniques oratoires dans une préparation à l'ENA, et il avait réussi à me captiver pendant 2 heures et demie, mais sans rien dire en fait sur le fond, c'est-à-dire que ça ne faisait pas avancer. On venait pour avoir des réponses de fond, on n'en a pas eu, et pourtant j'ai été captivé, et ça m'a marqué. Ça m'a marqué dans les choses. Et après, ça a été beaucoup voilà, de rencontres personnelles. Souvent, je trouve que ceux qui m'ont inspiré sont ceux qui ont été sincères avec le recul. Voilà, ceux qui ont fait preuve de sincérité. Mais c'est surtout pour moi des rencontres plutôt professionnelles de proximité qu'une image. Alors évidemment, hein, si je réfléchis, ou on peut partager sur un peu des images plus grandes, mais ceux qui me touchent, c'est plutôt ceux qui sont proches dans la relation.
Et qu'est-ce qui t'a autant marqué du point de vue de la forme concernant cette personne que tu viens de citer ? Qu'est-ce qui la rendait justement si captivante pendant 1h30 à 2 heures où tu l'écoutais ?
C'est quelqu'un qui s'imposait pas dans la discussion, qui était vraiment très à l'écoute. Alors quand on connaît un peu les techniques de communication non violente, ou en tout cas la philosophie de parler des faits, ce qu'on retrouve aussi chez Thierry Tournebise, c'est le vrai échange, de se dire la communication, c'est une co-construction. C'est on essaye de se comprendre, on essaye de s'affirmer, on essaye de se faire comprendre. Ça amène aussi, à mon avis, une des principales qualités chez un orateur, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'il y a jamais on n'est jamais arrivé, en fait. On n'est jamais à un moment un bon communicant, et on a une médaille d'or du bon communicant. C'est un recommencement, c'est un éternel recommencement. Et si on n'est pas dans un éternel recommencement, on en connaît autour de nous, dans nos familles, ou même les figures politiques, où on peut être dans un tunnel verbal, où en fait on parle, c'est super, techniquement, il y a tout, c'est génial, mais en fait on n'écoute plus. Et à partir du moment où on n'écoute plus, ben, on n'est plus un bon communicant.
Oui, puis il y a une adaptation au contexte, au public. Comment j'introduis mon sujet, c'est pas la même chose si je l'introduis devant tel ou tel public. comment je rassure un public néophyte versus un public plus technique, de techniciens, si on parle par exemple des entreprises. Donc effectivement, je suis complètement d'accord avec ça. Les exemples politiques, là aussi, sont nombreux, je pense. J'ai déjà cité dans ce podcast, mais la première prise de parole d'Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée, où il se fait huer. Mmh. Il se fait huer et puis il a la bouche suspendue. Il est un petit peu pris en flagrant délit de séchage verbal en direct.
C'est vrai. En figure locale, j'y pense que je l'ai souvent vu. J'ai souvent vu en prise de parole en public, je trouve très performant. C'est Laurent Marty. Je trouve qu'il est très fort là-dessus. Et c'est d'abord que aussi la forme est au service du fond, toujours pareil. Il arrive, il a quelque chose à dire, quoi.
D'accord, Laurent Marty avec un Y, histoire qu'on le...
Non, Laurent Marty avec un I, c'est le président de l'UBB, qui est aussi, l'UBB, le club de rugby de Bordeaux, et qui est aussi chef d'entreprise.
D'accord.
Par ailleurs. Voilà, qui a une double activité, une double casquette.
Ça pourrait être l'occasion de le taguer sur le post LinkedIn ou Instagram pour ce podcast. Laurent Marty, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des prises de parole que tu redoutes, Baptiste ? Parce que ça peut être aussi un art paradoxal, l'art de prendre la parole. Je peux être très à l'aise devant 500 personnes que je ne connais pas trop. Par contre, un peu moins devant 5 personnes proches. En tout cas, moi, ça a pu m'arriver. Est-ce que tu as parfois affaire à un ou deux paradoxes comme ça dans ton quotidien ?
Oui, bien sûr. Et c'est souvent lié aussi à l'objectif. Je trouve ce qui est difficile souvent, c'est la prise de parole de régulation ou même de quand on a besoin de dire des choses qui vont pas. C'est peut-être pour moi les plus difficiles d'aller au conflit, hein, c'est nécessaire, hein. Des fois c'est aussi ce qui nous fait peur dans la communication, c'est quand on n'est pas d'accord et qu'il faut le dire et qu'il faut se mettre avec cette altérité de la personne qui va recevoir quelque chose, qui va forcément l'accueillir de manière négative. Et souvent on fuit ces moments de communication où en fait on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de décevoir une personne en face de nous, alors qu'en fait c'est nécessaire. Et dans les organisations, on aborde beaucoup ça dans la dimension managériale, de savoir dire quand ça va pas, parce que si on le dit pas ou si on veut le faire deviner, on ne fait qu'envenimer la situation et on ne fait que créer un problème plus gros que ce qu'il n'était au départ.
Pour nos auditeurs, est-ce qu'il y a un don de doux absolu, quelque chose à éviter qui te vient en tête quand il s'agit de mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit, en réunion ou en situation professionnelle ?
Ouais, j'en ai un qui me vient là, poser des fausses questions. Donc si j'ai quelque chose à te dire et que je vais poser des questions, par exemple, sur t'as mal fait ton travail, et je veux dire, tu crois que t'as bien fait ton travail ? Voilà, la fausse question, si j'ai un message à faire passer, je fais une affirmation, je passe mon message, même si c'est au conditionnel. C'est-à-dire que je peux utiliser le conditionnel pour dire, de mon point de vue, en tout cas c'est ça. Mais on utilise souvent une question pour faire passer un message, mais c'est une fausse question pour moi.
Et alors je suis absolument pas spécialiste de ce sujet-là, c'est toi l'expert. Est-ce qu'il y a... J'avais peut-être lu une fois qu'il fallait aussi éviter peut-être le « tu » et mettre plus de « je » et de parler de ses besoins aussi dans ce genre de cas. C'est une technique que tu as déjà vue, pas du tout ?
Oui, bien sûr, c'est une technique de communication non violente où on va utiliser le jeu pour exprimer son ressenti. Mmh. Écoute, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu travailles moins bien ou t'es moins concerné par ton travail. Voilà. Du coup, la personne, elle va pouvoir aussi s'exprimer et elle va pas se sentir jugée. En fait, on enlève un petit peu tous les jugements de valeur qui souvent se retournent un peu contre nous, sans être forcément rhétorique, mais voilà. En communication non violente, on parle du fait. Voilà. Donc, si le fait, c'est le travail est insatisfaisant, je vais te dire que de mon point de vue, le travail est insatisfaisant. Alors, c'est pas la clé de tout. J'ai en tête une vidéo super bien faite qui pratique beaucoup de dérision sur la communication non violente. Hein. C'est pas la clé et le graal de tous les conflits.
C'est un outil complémentaire finalement de ceux qu'on a déjà évoqués.
Ce que je te disais au départ, en tout cas, c'est de le dire, c'est de communiquer. Il ne faut pas attendre, en fait. Il ne faut pas attendre de ruminer. Et justement, qu'on explose, parce qu'à un moment, on explose, il faut le dire avant. Et des fois, en fait, on régule des situations où chacun pensait quelque chose de l'autre qui n'était pas juste. C'est ça souvent, hein, c'est... Moi, je le dis souvent dans les organisations, c'est pas, il y a très peu de conflits dans le boulot. On est plutôt tous plutôt ok de prime abord, mais c'est d'abord beaucoup de malentendus. Hein, mais je croyais que tu faisais ça et je croyais que tu faisais ça pour ça, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre des croyances parce qu'en fait, on n'a pas dit les choses tout simplement.
C'est ce fameux fameux décalage. Je donne un message à et puis j'entends B en face. Maintenant, pour bientôt clôturer cet échange, Baptiste, est-ce qu'il y a une devise, une citation qui t'accompagne au quotidien, que t'aimes bien ?
Alors pareil, de manière un peu improvisée, celle qui m'est revenue, qui m'a beaucoup guidé, c'est celle au départ, quand j'ai lancé Décalé. C'est une citation de Jacques Copeau, qui est un metteur en scène du théâtre français, qui dit « L'improvisation, c'est l'éducation de l'instinct ». Voilà, j'adore cette phrase parce que je pense que effectivement, quand on s'entraîne à improviser, on développe plein de choses instinctives. Voilà, il y a plein de bénéfices collatéraux sur l'estime de soi, sur voilà. Je pense pas, c'est sûr, on improvise tous les jours. Enfin, je veux dire, tout le monde improvise. Alors théâtralement, non. Tout le monde n'a pas vocation à aller faire et se mettre sur scène et à raconter un personnage ou une histoire, mais soi-même dans la relation c'est l'improvisation.
Oui, et puis en termes de créativité, d'association d'idées, mon voisin a fait une proposition, j'abonde et on co-crée une tierce proposition à deux. Donc l'improvisation comme source de créativité, de lâcher prise, effectivement. Où est-ce qu'on peut, en parlant d'improvisation, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut se former donc auprès de Décalé, auprès de toi Baptiste, comment on peut faire sur les réseaux, sur Internet ?
Alors sur les réseaux, on est présent sur LinkedIn, le réseau professionnel, et puis sur notre site internet décalé.fr. Il y a nos coordonnées, numéro de téléphone, on peut nous appeler, il y a le mail, voilà. On est devenu nomade en même temps que le départ de la ruche à Gambetta pour les régionaux qui connaissaient ce lieu. Et on est pas mal en mode nomade. On travaille avec le théâtre Le Cerisé qui est à Bordeaux-Nord pour nos formations qu'on organise sur la prise de part en public ou le pitch. Voilà, on est facilement trouvable sur le net et sur les réseaux et on répond toujours à toutes les demandes.
Parfait. Un grand merci, Baptiste, pour le temps que tu nous as accordé ce matin. Vraiment un grand merci à toi et donc à Décalé. Merci aussi à Aline, présente ici même dans la pièce avec nous. Et chers auditeurs, si cet épisode vous a plu ou l'un de ces épisodes vous a plu, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à liker, partager sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.
Merci David pour la sollicitation et puis à bientôt.
Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le faire savoir en lui laissant une belle note ou en le partageant et le commentant sur les réseaux sociaux. Que ces conseils de communication puissent vous être utiles et à vos proches, je m'appelle David Jadar et vous pouvez me retrouver sur mon site internet lesorales.fr